La radiodiffusion française vous invite à écouter
Les damnés de Visconti.
Évidemment, c'est une classe qui meurt, celle que je suis en train de décrire, car le changement dans l'Europe entière, dans le monde entier, est une chose très évidente. Peut-être ce qui m'intéresse le plus, c'est de justement voir et suivre la déchéance d'une certaine classe, vous comprenez ?
Né le jour des morts, en novembre 1906, il remarquait qu'on ne peut vivre si on n'est pas précédé. Pour sa part, il descendait des ducs de Milan et ses domestiques l'appelaient « Monsieur le Comte ». Ses producteurs lui trouvaient des comportements de prince de la Renaissance. En 1976, il eut un enterrement de roi. En même temps, c'était un aristocrate d'un tempérament particulier. Il n'y aurait pas eu d'œuvre de Visconti sans les contradictions de Visconti. Le cinéaste brésilien Glauber Rocha parlait de lui comme d'un marxisto-sexualo-aristocrate. Entendez qu'il était homosexuel et depuis les années 30 le reconnaissait de plus en plus clairement. En outre, il avait basculé pendant la guerre du côté de la résistance au fascisme et du parti communiste. On l'avait vu dans les émeutes de rue, rayonnant de solidarité. Son œuvre afficha souvent son attirance pour les dominés. Lorsqu'il tourne Les damnés, qui sort en Italie en octobre 1969, il est au sommet de sa maîtrise. Le film relève un vieux projet qu'il avait de transposer Macbeth dans le monde contemporain et c'est en effet un passeport pour les enfers.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Laurence Schifano, bonjour.
Bonjour.
Alors
merci.
Vous savez presque tout de la littérature italienne, vous n'êtes pas obligé de me dire merci là, mais vous en savez encore davantage, ne me dites pas merci, sur le cinéma italien. Et puis, je veux dire que vous avez publié il y a quelques années, mais c'est disponible en folio depuis 7 ou 8 ans, chez Gallimard, une très belle biographie de Visconti qui est à la juste distance, racontant une foule de détails et ayant aussi un œil panoramique. Bon, maintenant, cessons les compliments mutuels, si vous le voulez bien, et parlons de Visconti au moment où il va commencer à tourner Les damnés. Les scénarios prennent du temps à être élaborés chez lui. Hein.
Alors, les scénarios, en fait, ont des naissances qui sont des naissances très lointaines. Celui-ci remonte peut-être au moment où, avec Thomas Mann, il signe un contrat pour mettre en scène Mario et le magicien, qui est une espèce de métaphore sur Hitler et sur l'emprise exercée par Hitler en Italie. Hein. C'est un scénario qui, lui, se passe en Italie. Et à partir de cette année, 50, c'est le tout début des années 50, va mûrir un projet qui est effectivement un projet tournant autour de la représentation maléfique, presque diabolique, du pouvoir. C'est donc Macbeth mis sur la scène à l'opéra dans deux mises en scène qui sont des mises en scène de Verdi. Il va avec sa scénariste attitrée jusqu'alors, Suso Cecchidamico, élaborer un traitement, un premier traitement, dont il n'est pas totalement satisfait, qui se passe en Angleterre et qui est inspiré par l'affaire Profumo, qui est une affaire scandaleuse qui met en scène et compromet la classe dirigeante anglaise et il y renonce. Et c'est donc en 68 qu'il revient à ce projet, mais pour le développer et le situer alors en Allemagne.
L'histoire du nazisme à travers une famille. Il y a un autre livre qui a influencé Visconti de Thomas Mann, le livre « Les Buddenbrock », histoire du déclin d'une famille. Et dans « Les Buddenbrock », on trouve souvent des descriptions de repas de famille. Le film commence avec la fête d'anniversaire, le repas n'aura pas vraiment lieu de l'oncle Joachim von Essenbeck. C'est le patriarche d'une famille qui dirige des aciéries. Herbert, qu'on va entendre ici, excusez-nous, c'est la version française, hein, Laurence Schifano, des damnés, est un des dirigeants de l'usine de sensibilité libérale. Il va être éliminé puisqu'on est au début de 1933, peu après l'accession de Hitler à la chancellerie. Mais sa femme tente de le rassurer parce qu'elle, elle a toujours fait le pari de la solidité de la famille.
Ça fait plus de 40 ans que oncle Joachim met notre barque. Il la maintient en bon équilibre contre vent et marée.
En bon équilibre. C'est toi qui as dit le mot. Un sourire pour les libéraux, une courbette devant les nazis, une faveur accordée tantôt à Constantin et tantôt à moi.
Robert, tu n'es pas juste. Oncle Joachim ne se montre pas tendre à l'égard de qui tu penses.
Parce qu'il est un snob. Si le caporal Hitler n'était pas le fils d'une servante et d'un douanier, il y a belle lurette que le cher Joachim se serait jeté à son cou.
Oui, néanmoins, il a suivi tes avis en ne donnant rien à la caisse du Parti National Socialiste.
Parce qu'il est plus radin que n'importe qui.
Et comprenez donc qu'aujourd'hui en Allemagne, on doit s'attendre à voir les choses les plus improbables. Et ce n'est que le début d'une révolution. La morale traditionnelle est désuète et inutile à notre élite pour qui tout est désormais permis. C'est un texte du Führer. Mon cher Frédéric, je vous conseille de l'apprendre par cœur.
S'adressant à Frédéric, un autre dirigeant de l'usine, la voix qu'on vient d'entendre et qui cite le Führer, c'est Aschenbach, dont vous dites, c'est le SS, porte-parole du régime à venir, que c'est l'équivalent des sorcières dans Macbeth, justement.
Oui, c'est le choix de Visconti de concentrer toujours les autour de figures qui sont des figures puissantes, des figures fortes et qui vont avoir donc un pouvoir didactique. Le film est adressé à la jeunesse, une jeunesse avec laquelle dans les années 68, ils se sentent de plus en plus lointains, éloignés. Ils ne les comprennent pas et ils pensent que ces tumultes vont en fait être portés d'un renouveau du fascisme. Le fascisme existe encore en Italie. Il y a un parti qui est le MSI, qui est un parti assez fort. Et il y voit, et c'est déjà quelque chose d'assez prophétique, il y voit en fait l'annonce d'une période qui va être une période très très dure avec des massacres d'État, etc. C'est effectivement ce qui va se passer avec, dès 69, le début des années de plomb.
L'histoire, c'est le moteur du film, puisqu'il s'adresse aux contemporains, vous venez de l'expliquer. Est-ce que c'est le seul carburant? Quand le film sort en février 1970, voici le débat qui a eu lieu au Masque et la Plume. On ne pouvait pas ne pas extraire les propos de Jean-Louis Bory, qui en fait reprenait ceux plus ramassés de Marc Habru, grand critique lui aussi.
Que Visconti est... Et envie d'abord d'un cadre historique, c'est vrai, mais c'est vrai aussi pour Sanso, c'est vrai pour le Guépard, même pour Rocco et ses frères, il a besoin d'un cadre historique, c'est peut-être par là justement qu'il se veut marxiste. Bon, et il a donc pris l'Allemagne, 1933, un milieu précis qui est la famille Krupp, mettons, si vous voulez, c'est-à-dire les maîtres de forge qui sont, si vous voulez, séduits par cette violence noire, pour des raisons obscures, dans lesquelles Visconti s'enfonce et nous enfonce, par cette espèce de violence qui est le nazisme montant et dont ils espèrent se servir. Bon, et l'histoire nous dira, et Visconti montrera, que c'est le nazisme qui va se servir des maîtres de forge. Bon, ça, c'est des réalités historiques. Voilà ce dont Visconti part. Je ne crois pas que ça soit ça qui l'intéresse véritablement, et Marc Habru a parfaitement raison en disant qu'il part de ce cadre, qu'il le respecte visuellement, en ce sens que la couleur historique est parfaite, les meubles, les objets, les coiffures, les costumes, la façon dont les gens, la réalité des rues de l'époque, si vous voulez, est reconstituée avec un soin qu'on le reconnaît bien chez Visconti, qui est un soin d'antiquaire.
Mais tu fous par terre le film.
Mais non, c'est la peau du film. Pour plonger dans un univers qui n'est plus celui de la réalité historique, de la reconstitution historique par les objets ou par les gens et les costumes, mais qui va justement dans cette espèce de nuit. Le thème nocturne est constamment dans tout le film-là, et de nuit qui est représenté par les abîmes, qui sont à la fois les abîmes individuels, et là Freud est manifestement évident à côté de Marx, et représenté par cette espèce de politique nocturne représentée par les SS, costumes noirs, tout, là aussi les objets ont l'importance, la couleur des objets ont leur importance. Et c'est dans cette nuit-là que Visconti nous enfonce.
On parlera de Freud tout à l'heure, on ne peut pas en 70 ne pas parler de Freud et de Marx. Alors, d'abord, la justesse de leur constitution. Vous racontez qu'un automobiliste juif arrive sur le décor. C'est tourné où d'ailleurs?
Alors, il n'a pas pu tourner à Essen, donc qui est la ville des Krupp dont il s'inspire, même pour donner le nom des Essenbeck. Et il a été, il n'a pas non plus pu tourner près de Munich, Donc là où a eu lieu la nuit des longs couteaux. Il a fallu qu'il se déporte du côté de l'Autriche et dans un cadre qui ressemble d'ailleurs beaucoup au cadre où a eu lieu un des épisodes du massacre des SA. Et à ce moment-là, quand il a, avec un soin scrupuleux, reconstitué l'auberge, les svastikas, enfin tous les emblèmes, et que sont apparus les SS avec les motos le jour donc où on a tourné l'épisode du massacre, il y a effectivement un villageois qui a vu ça et qui a eu un infarctus.
Alors Marx, c'est pas le marxisme automatique de 1970 où quand vous parliez d'Hitler dans une salle de classe, vous aviez toujours un élève communiste qui vous disait « Mais monsieur, c'est le grand capital qui a fabriqué Hitler ». Lui, c'est plus subtil, de toute façon, Visconti. Je sais pas s'il fait sans arrêt appel à Marx, d'ailleurs.
Oui, il y fait quand même appel. Hein. Il dit désormais les dieux aujourd'hui, puisque le titre original, c'est la caduta degli dei, c'est-à-dire la chute des dieux. Et les dieux, pour lui, aujourd'hui, ce sont les capitalistes, ce sont les financiers, ce sont ceux qui, comme les Krupp, les Thyssen, tous ces grands chefs d'entreprise, vont avoir un impact, une responsabilité fantastique sur la marge de l'histoire, sur la marge de la guerre. Et donc, il pense qu'il y a une possibilité d'interprétation qui serait l'interprétation à privilégier pour le fascisme, c'est-à-dire un accomplissement qui serait un accomplissement dans la destruction et dans la mort. Donc, il a effectivement lui-même justifié, de façon idéologique, cette ligne qui est la ligne de la destruction. Mais il y a une autre ligne de destruction dans le film qui est évidemment les tensions internes à l'intérieur de cette famille qui est une famille d'un nœud de vipère et qui va les conduire là aussi à la destruction.
Ça, c'est le cas. Carburant du moteur et l'idéologie, d'accord, mais la réalité des rapports familiaux, j'allais dire des rapports sensuels, parce que le film, il a été conçu aussi pour Helmut Berger, dont Visconti était amoureux depuis un moment, un jeune Autrichien. Vous parlez de la beauté de Visconti, vous dites que c'était une beauté à faire tomber le pain des mains. Il était bien aussi, Helmut Berger, aux yeux de Visconti, non ?
Oui, la beauté est inséparable de l'univers de Visconti. On le lui a, à mon avis, trop souvent reproché.
Helmut Berger est assez taiseux sur ce sujet. Dans cette brève interview, on entendra ensuite une autre interprète, Charlotte Rampling.
Il a fait pour une semaine de essais avec des autres acteurs, avec Charlotte Rampling, avec Ingrid Tulin, tout simple. C'était très dur. Et après, Visconti a dû penser que j'étais capable de jouer ce rôle, et il m'a fait confiance.
On ne comprenait pas grand-chose. C'était un scénario comme ça, qui a été traduit de l'italien en anglais mal. Et le rôle qu'il voulait, c'est un rôle beaucoup plus âgé que moi, avec des enfants, une femme qui meurt dans un camp de concentration, qui fait partie d'une grande famille. C'était impressionnant. Donc je l'ai dit à Visconti, je pense pas que je peux jouer ce rôle, et c'est ce moment-là qu'il m'a dit, mais tout se passe derrière les yeux, et ce que je vois derrière vos yeux me suffit.
Charlotte Rampling joue Elisabeth, la jeune femme qu'on entendait tout à l'heure confiante, et qui va en effet finir à Dachau. Dites-moi le tournage tel que vous le décrivez, mais vous dites la même chose de la plupart des scènes de répétition de théâtre que vous évoquez, c'était plutôt houleux. Helmut Berger ne savait pas qu'il allait entendre des choses du genre « Petit merdeux, si t'es pas capable de faire ça, bah t'as qu'à retourner en Autriche ».
Oui, c'est tout à fait vrai, et c'était sa première grande apparition à l'écran, déguisée en Marlène Dietrich, Lola Lola, avec en plus la nécessité de chanter, la nécessité d'apparaître aussi dans un costume qui lui faisait honte parce qu'il n'osait pas se présenter devant l'ensemble de la troupe présente sur le set et qui était là et qui évidemment ne savait pas du tout s'il allait pouvoir jouer. La fragilité de Helmut Berger a été tout de même portée, exaltée par Visconti et il a réussi à le faire jouer, à lui faire interpréter cette séquence après lui avoir montré à l'ensemble d'ailleurs des assistants l'ange bleu de Sternberg.
Alors ici, on attendrait peut-être Marlène Dietrich, mais j'ai noté dans votre biographie, Laurence Chifano de Visconti, Folio, toujours la même recommandation, que Visconti, il pouvait avoir l'œil impérial sur ses acteurs, les fêlés, mais il pouvait pas imposer les musiques qu'il voulait à ses producteurs, de même qu'il n'a pas pu imposer le titre de Crépuscule des lieux, il n'a pas pu imposer la cinquième de Malheur, qu'il voulait voir dirigée par son beau-frère.
Franco Banino.
Et finalement, dans Mort à Venise, un peu plus tard, on retrouvera cette musique.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Les damnés de Visconti, nous sommes en compagnie de Laurence Schifano. Le pacte familial, en cette année tragique de 1933, où disparaît la démocratie allemande, où le Reichstag est incendié, va être rompu très rapidement. Comme ce film de Visconti est inspiré aussi par ses ruminations autobiographiques, il doit se souvenir que chez les Visconti, le fascisme a aussi brisé la famille.
Alors, bon, pour les damnés, on est entre février 33 et juin 34, c'est-à-dire la nuit des longs couteaux. Il revient toujours aux moments qui sont les moments de l'origine. Ce qui l'intéresse, c'est ça. Il n'a jamais voulu parler, ou en tout cas mettre en scène sa propre famille. Mais il est vrai que dans tous ses films, il y a quelque chose de sa famille. À la fois pour s'en souvenir avec nostalgie, et à la fois pour essayer d'en radiographier les maux, les maladies. Les parents de Visconti se sont séparés dans des conditions qui étaient des conditions sans doute assez traumatisantes, même si à l'époque Visconti est déjà adolescent et donc peut-être moins fragile qu'il n'aurait pu l'être plus tôt. Mais c'est aussi une famille qui est une famille traversée par tous ses rapports avec le pouvoir, avec la maison de Savoie dont ils sont très proches, avec Mussolini, qui est un peu comme Hitler, quelqu'un qu'on ne fréquente pas, on s'y habille très mal, enfin ses chemises noires sont très laides, c'est en tout cas ce que pense le père de Visconti. Mais en même temps, il y a, comme dans les damnés, un oncle qui est tout de même podesta d'une ville importante qui est Florence, et il y a sans aucun doute des liens très très troubles avec le fascisme, même si Visconti a minimisé un petit peu cela. Il faut aussi rappeler que le frère aîné Guido, donc le premier fils de ses sept enfants, Visconti di Modrone, a trouvé la mort à El Alamein en criant « Vive le roi !» et en étant l'allié avec l'armée italienne de l'armée de Rommel.
Ça, c'est la famille Visconti. J'ai essayé de faire aussi simple que vous avec la famille von Essenbeck. Donc, l'oncle Joachim va être assassiné au début du film, la nuit de l'incendie du Reichstag. Et deux possibilités s'ouvrent, l'oncle Constantin, qui est membre des SA, dans un rôle important, ou Friedrich, qui est l'amant de Sophie, une descendante très importante de la famille. Et Aschenbach, souvenez-vous, le messager de l'enfer, le personnage équivalent des sorcières de Macbeth, choisit dans un premier temps Friedrich. Mais l'engrenage, c'est un engrenage, continue de fonctionner pignon après pignon. Constantin demeure, le dirigeant des SA, vice-président de la société, et il va à son tour être éliminé pendant la nuit des longs couteaux que vous citiez, juin 34. Alors ça, c'est un moment de bravoure du film, il faut que vous en disiez un mot. Parce que on est plus dans le sexe à certains égards que dans la description historique.
Alors c'est une macro-séquence, une de ces séquences majeures que Visconti réussit plus qu'aucun autre cinéaste. Et c'est par là qu'il a commencé. C'est-à-dire que le film tel qu'il a été commencé, enfin, tel que Visconti a commencé de le tourner en juillet 68, a donc demandé un investissement très très fort, et je dirais un investissement affectif aussi bien que financier, et donc il a voulu commencer par là.
Alors ensuite, soyons clairs, parce que je parlais de sexualité. Constantin, le dirigeant SA, est un ami de Rome. Rome, le chef des SA, et la frange homosexuelle est très voyante chez les SA.
Oui, alors,
faut-il pour autant représenter leur réunion dans une auberge de Bavière, où on a fait venir des saucisses de Bavière, comme une orgie homo?
Oui. Alors, donc, Visconti part, en fait, du récit que donne de cette nuit William Scheirer, donc, qui vient de publier son livre sur le Troisième Reich. Mais Scheirer, dans son récit, ne parle que de quelques exécutions sur place. Et Visconti, au contraire, a donné une espèce d'ampleur apocalyptique à cette nuit, situé ici, et c'est un moment fantastique, hein, de fête, d'orgie et de mort qui est mis en scène par lui à ce moment-là. Le côté sexuel est peut-être aussi lié à cette époque, hein, qui est l'époque quand même de 68, où Pasolini lui-même, avec Porcherie, avec des films qui, eux aussi, mettent en scène la sexualité, sont donc très, très, très puissants, très radicaux sur le sexe.
Oui, mais la frontière est poreuse avec la complaisance. On la voit franchie, d'ailleurs, dans le spectacle de la Comédie française. Et Luchino Visconti lui-même disait à l'époque, notre cinéma est surtout fait de scènes de charme, de sexe, voire de pornographie.
Ben, il ne considère pas que sa représentation du sexe soit de l'ordre de la pornographie, et je ne crois pas d'ailleurs qu'elle le soit. Alors il est vrai qu'il y a certains plans qui peuvent faire penser à du Bacon, à Francis Bacon. Hein, et donc il y a une dimension qui est une dimension autre, terrifiante, peut-être qui ressortit à l'angoisse que à cette époque-là, Visconti peut encore avoir vis-à-vis de son homosexualité, et que disons au fur et à mesure il perdra ou en tout cas qui sera moins forte. Hein,
on n'a pas parlé jusqu'ici d'un personnage très important. On a cité l'interprète longuement, Helmut Berger. Le personnage, c'est Martin, et c'est en fait le principal héritier après l'assassinat de Joachim. Mais Martin est faible, il est complètement obsédé, sexuel, de mille manières, et ça a permis de le tenir à l'écart. Sa mère et Friedrich ont décidé de se marier, et il va être encore davantage marginalisé. Et souvenez-vous, il y a toujours le messager des enfers qui est là comme le fil conducteur. Il s'appelle Aschenbach, et il va convaincre Martin qu'une possibilité de changement d'alliance existe et qu'elle est dans la ligne du national-socialisme.
J'ai cru que vous et Frédéric...
Je l'ai cru aussi, jusqu'à hier. Celui-là seul qui se rend compte qu'il risque de perdre demain tout ce qu'il a obtenu hier grâce à notre appui Celui-là seul est digne de notre confiance. Mais l'ambitieux qui veut tout posséder, y compris le droit d'agir à sa guise, ce fou qui se leurre lui-même en croyant qu'il est maintenant maître de ses décisions, celui-là cesse d'être de nos amis. Il s'imagine que le national-socialisme doit uniquement servir leurs ambitions. À croire qu'ils n'ont encore rien compris au national-socialisme tel qu'il est. Autant je sache, Frédéric n'a pas de fils. Du moins pas encore. Mais votre mère, elle, en a un. Et ce fils, c'est vous, Martin.
La seule pensée de ma mère a été de me mortifier. J'aurais eu tant besoin d'elle. Et je l'aimais tant. Elle n'a rien compris. Elle ne m'a jamais compris. Mais aujourd'hui, tout cela s'est changé en haine. Je la déteste. Oui, c'est bien simple. Je veux qu'elle soit humiliée, ruinée et seule surtout.
L'engrenage va continuer de fonctionner pignon après pignon. Pignon, c'est la mère qui va disparaître et son complice Friedrich. Personne n'est sauvé dans ce film, alors que souvent chez Visconti, il y a des personnages rédempteurs.
Non, c'est une œuvre qui est une œuvre aussi très influencée par Dostoïevski, avec le viol de l'enfant, le viol de...
Qu'on a oublié de dire que parmi les perversions sexuelles de Martin, il y a peut-être
une
légère tendance à la pédophilie. Ouais,
absolument. Donc tout est sur la stérilité et sur la mort. Pas du tout comme chez, pas comme dans Salo. Salo, c'est un enfer
Pasolini,
glacé.
Le dernier film de Pasolini, c'est... oui. Ouais. L'accueil du film. 1969 en Italie, 1970 en France et ailleurs.
Ouais. Alors, c'est un film qui a été très contrarié dans sa réalisation, dans son financement, mais qui a été un succès financier considérable, aussi bien en Italie, en France, que même, pays puritain, aux États-Unis. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est à partir de là qu'on voit naître une espèce de veine nouvelle, qui est la veine du film nazi, une espèce de nouveau genre, qui va même donner naissance à des films porno. Alors, on revient ici à la représentation de la sexualité, mais cette fois-ci d'une manière assez dégradante, avec les mêmes acteurs.
Alors, on peut prendre l'exemple de Portier de nuit. Portier de nuit, c'est 4 ans après, dans un hôtel à Vienne, le portier, Dirk Bogard, reconnaît en la personne qui lui demande sa clé, Charlotte Rampling, la femme sur laquelle il a exercé son pouvoir sexuel quand il était tortionnaire dans un camp de concentration. Alors là, il y a eu un tollé après Portier de nuit.
Mais là aussi, tollé peut-être, mais très grand succès. Et grand succès aussi aujourd'hui, quand vous montrez ces films, aussi bien Portier de nuit, Salo, Les damnés, aux jeunes, aux étudiants en cinéma.
Attendez, c'est pas du tout la même chose. Les damnés, il y a de la retenue. Portier de nuit, c'est davantage complaisant. Et Salo, c'est regardable. C'est un film d'une force extraordinaire où l'auteur s'engage complètement.
Oui. Alors, bon,
c'est pas sûr que Liliana Cavani dans Portier de nuit se soit engagée à ce point.
Oui. Mais ce qui fait peut-être la différence, c'est justement le soin de Visconti de filtrer, de filtrer par la littérature, par tout un ensemble de références qui sont des références de connaissances, de culture, de réflexion critique, ce que nous ne trouvons pas, par exemple, chez Liliana Cavani, que Visconti a beaucoup soutenu, il l'a beaucoup aidé, il lui a dit « vas-y, c'est ce qu'il faut faire ».
Ce filtre, cette retenue, est-ce qu'on le trouve chez Yvon Von Hov, le metteur en scène des damnés à la Comédie Française, question qui sera sans doute posée par Laura Adler, puisqu'elle le recevra dans l'Heure Bleue. L'émission était réalisée par Valérie Aestaray, à la technique Gilles Gaillard et la préparation. C'était Franck Olivard et Ilinka Negulesco. Au programme de La Tête au Carré, cher Mathieu.
Oui Jean, le chant du cygne de la cendre Rosetta qui va mourir demain en s'écrasant sur la comète Chury. Nous sommes en deuil.
Il est 14h, vous écoutez France Inter.